Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce mardi 27 avril. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé. Dans cette édition, comme tous les mardis, on va décrypter l'actualité française de ces derniers jours. On parlera également d'un label d'accessoires pour femmes et aussi accessoires pour objets de la maison. Et ce, c'est un nouveau label, un label avec une inspiration française et aborigène. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi. Tension entre les États et le gouvernement fédéral concernant la quarantaine au moment où l'Australie occidentale lève le confinement. Le secrétaire australien aux affaires intérieures avertit que l'Australie doit se préparer à un conflit régional. Et en France, hommage hier rendu à l'agent de police assassiné la semaine dernière à Rambouillet. Les tensions entre les différents États et le gouvernement fédéral concernant la quarantaine dans les hôtels restent non résolues alors que les Australiens de l'Ouest sortent d'un confinement de 3 jours. Le premier de l'Australie occidentale, Mark McGowan, a déclaré que le verrouillage a coûté environ 70 millions de dollars à l'économie locale. L'État n'a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 transmis par la communauté, mais 4 nouvelles infections ont été détectées en quarantaine dans les hôtels. Monsieur McGowan a exhorté le gouvernement fédéral à suspendre temporairement les vols au départ de l'Inde, qu'il décrit comme l'épicentre de la mort et de la destruction.
India, there needs to be a suspension. And if they wish to come up with a new arrangement around India using Christmas Island or using some of the more remote facilities, and I think every state's going through this, there's huge pressure now on all our quarantine facilities as a result of people coming from India. What makes it more galling is people have gone over there over the course of the last few months for weddings or funerals or to play sport or whatever other purpose. I don't think that was necessary.
Et le gouvernement néo-zélandais enquête de son côté sur une personne qui s'est rendue à Auckland pour échapper au confinement à Perth. La personne a profité de la bulle trans-Tasman pour se rendre à Auckland lundi dernier sans passer par la quarantaine. La personne est actuellement en auto-isolation et ce voyage se serait déroulé en violation des conditions du verrouillage de l'Australie occidentale et du régime de la bulle trans-Tasman introduit la semaine dernière. La Nouvelle-Zélande a interrompu le voyage depuis l'Australie occidentale à la lumière du verrouillage des 3 jours qui avait commencé le samedi passé et qui s'est terminé ce lundi. Et le gouvernement Morrison va envoyer de l'oxygène à l'Inde qui en ce moment donc en a extrêmement besoin. Le gouvernement pourrait également adopter des règles plus strictes pour les voyageurs en provenance de l'Inde en raison de la catastrophe de COVID-19 qui sévit dans ce pays. Le comité de sécurité nationale se réunit aujourd'hui pour évaluer l'aide humanitaire à l'Inde, un pays qui a établi de nouveaux records journaliers de cas de coronavirus. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que des ventilateurs non invasifs seraient probablement fournis à l'Inde.
India is literally gasping for oxygen. We've reached out to the states who actually carry the supplies of oxygen to see whether or not there is any spare capacity which may be provided.
Il faut signaler que les personnes ayant séjourné en Inde au cours des 2 dernières semaines doivent subir un test COVID-19 négatif dans les 3 jours suivant l'embarquement sur un vol pour l'Australie. Et l'OMS va augmenter du personnel et des fournitures supplémentaires en Inde pour aider à lutter contre la pandémie. L'OMS a déjà redéployé 2600 membres du personnel d'autres programmes en Inde pour aider à soutenir l'effort de lutte contre la maladie. Maria Van Kerkhov, responsable technique de l'OMS pour le COVID-19, affirme que la situation en Inde est accablante.
The situation in India is really heartbreaking, as the exponential growth that we've seen in case numbers is really truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale, and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India.
Et selon l'OMS, les cas de COVID-19 à travers le monde ont en augmentation depuis 9 semaines, dans les 9 dernières semaines. Le nombre des décès a aussi augmenté pour la 6e semaine consécutive, avec presque autant de cas signalés dans le monde la semaine dernière qu'au cours des 5 premiers mois de la pandémie. Et le ministre australien aux Affaires intérieures a déclaré que les bruits de bottes sont en train de retentir bruyamment à travers le monde et que l'Australie devrait se préparer à un conflit régional. Mike Pazzullo a fait ses commentaires dans une déclaration au personnel dans un message de l'Anzac Day, ajoutant que l'Australie doit lutter pour la paix, mais pas au détriment de sa liberté. Ces commentaires sont tombés au moment où les relations de l'Australie avec la Chine sont au plus bas. Et le ministre de la Défense, Peter Dutton, a exprimé de son côté ses inquiétudes quant à la position de Pékin sur Taïwan. Mais s'adressant à Channel 9, le député travailliste Bill Shorten a déploré ce qu'il a appelé un langage incendiaire de la part de M. Pezzullo.
Language like drums of war, I think that's pretty hyper excited language, and I'm not sure our senior public servants should be using that language.
Et en France, hommage à Stéphanie M, l'agente administrative de la police de 49 ans, tuée à coups de couteau dans son commissariat à Rambouillet la semaine dernière. Hier, des policiers se sont rassemblés devant des commissariats et gendarmeries de plusieurs villes de France pour rendre hommage à leurs collègues assassinés. Pierre-Olivier de RFI nous décrit la situation à Rambouillet où plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées pour manifester leur émotion.
Une Marseillaise reprise en chœur par une partie de la foule vient clore cette cérémonie d'hommage. Deux raisons principales ont poussé les nombreuses personnes présentes à se réunir.
Alors en soutien évidemment à son mari, ses enfants, la famille et puis le symbole tout simplement.
Bah écoutez, je pense que c'est important pour soutenir un peu la police, la gendarmerie, enfin tous ceux qui nous défendent au quotidien.
Une cérémonie qui permet aussi aux habitants de se recueillir ensemble. Beaucoup sont encore abasourdis.
On est révoltés.
À Rambouillet, tout le monde est choqué parce qu'à Rambouillet, il ne se passe jamais rien. C'est une ville très tranquille.
J'ai déjà été dans le commissariat et c'était cette personne qui nous recevait, était très, très agréable, très gentille. D'ailleurs, ça m'a touché énormément là, quand j'ai appris ça.
Après le choc et l'émotion, la colère semble aussi gagner une partie de la population.
Je peux vous dire que ce qui s'est passé, je suis dans une colère, vous ne pouvez même pas imaginer. On nous assassine et qui c'est qui fait ça? Il est rentré clandestinement. Ça va être qui le prochain encore? Vous croyez qu'on en a pas marre?
Lors de sa brève allocution, la maire de la ville a rendu hommage à la policière. Rambouillet a perdu une part d'elle-même et la nation, une femme exceptionnelle, a-t-elle déclaré.
Et les États-Unis vont commencer à partager l'ensemble de leur stock du vaccin AstraZeneca avec le reste du monde une fois que ce vaccin aura passé les examens de sécurité fédéraux. Après ces examens, 60 millions de doses qui seront disponibles pour l'exportation seront disponibles dans les mois à venir pour l'exportation. Et cette décision s'inscrit dans la ligne tracée le mois dernier par l'administration Biden. Le gouvernement US s'est avancé à partager près de 4 millions de doses de ce vaccin avec le Mexique et le Canada. Le vaccin AstraZeneca est largement utilisé dans le monde, mais n'a pas encore été autorisé par l'US Food and Drug Administration. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l'administration américaine étudie toutes les options pour partager les doses de vaccin AstraZeneca fabriquées aux États-Unis au cours des prochains mois.
Given the strong portfolio of vaccines that the United States has already authorized and available in large quantity, and that is available in large quantities, including two dose vaccines and one dose vaccine, and given AstraZeneca is not authorized for use in the United States, we do not need to use AstraZeneca in our fight against COVID over the next few months.
Et les forces de sécurité birmanes ont abattu un homme dans la ville de Mandalay, 2 jours après que les dirigeants de l'Asie du Sud-Est ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un consensus avec la junte sur la fin de la violence. Des militants opposés au régime militaire avaient appelé les gens à cesser de payer leurs factures d'électricité et les prêts agricoles et à éloigner leurs enfants des écoles. Un développement qui jetait le doute sur l'issue des efforts d'un bloc régional visant à mettre fin à la crise consécutive au coup d'État au Myanmar. Le pays est dans la tourmente depuis que l'armée a renversé la chef civile Aung San Suu Kyi en février dernier. Et le président de la Commission européenne a déclaré hier que les touristes vaccinés en provenance des États-Unis pourront désormais visiter les pays de l'Union européenne dans les prochains mois. Ursula von der Leyen n'a pas dévoilé le calendrier précis, mais on spécule que les nouvelles règles pourraient être mises en place dès cet été alors que les vaccinations s'intensifient dans le monde entier. Karine Otenm pour RFI nous en donne les détails.
C'est une bonne nouvelle pour tous les acteurs du tourisme en Europe. À partir de cet été, tous les Américains vaccinés contre le coronavirus pourront passer librement les frontières de l'Union européenne. C'est Ursula von der Leyen qui l'a affirmé dans une interview hier soir au New York Times, sans toutefois donner de date précise. Cela se confirmera en fonction de la situation épidémiologique, mais avec 70% des adultes américains qui seront vaccinés mi-juin, l'immunité collective sera ainsi garantie aux États-Unis et pour elle, c'est bon signe. Cet accord marque la fin de nombreuses semaines de négociations entre Bruxelles et Washington, avec une pression des diplomates des pays d'Europe du Sud, grecs en particulier. Toujours en discussion, la question du certificat de vaccination pour montrer patte blanche à la douane. Si en Europe, la création d'un passeport vaccinal digital est en cours, rien n'a été annoncé encore côté américain. Mais dans un premier temps, il se pourrait simplement qu'un certificat papier européen soit remis aux touristes sur justificatif de leur vaccination aux États-Unis.
La marine indonésienne envisage de récupérer l'épave d'un sous-marin qui a coulé dans la mer de Bali. L'armée indonésienne affirme que les 53 membres d'équipage du KRI Nanagala 402 ont tous péri suite à cette catastrophe et que les équipes de recherche ont localisé l'épave. Les proches des marins morts se sont rassemblés sur le bord de mer de Bali pour leur rendre hommage et ont exhorté les autorités indonésiennes à récupérer les corps. Le président Joko Widodo a exprimé ses condoléances.
On behalf of the government and all Indonesian people, I would like to express my deep condolences for the death of 53 naval soldiers at KRI Nanggala 402 while carrying out the duties in waters north of Bali.
Et les examens d'entrée à l'université de Hong Kong se poursuivent malgré la crainte que cela pourrait contribuer à la propagation du COVID-19. Les cas de coronavirus sont faibles sur le territoire suite à des restrictions sanitaires, mais aussi suite à une campagne vaccinale qui a permis de vacciner plus d'un million de personnes. Des dizaines de milliers de jeunes ont passé les examens d'entrée la semaine dernière, vendredi passé plus précisément, tout en observant des mesures sanitaires strictes mises en place pour empêcher la propagation du COVID-19. Jerry Young, un des candidats à ces examens, estime que des conditions de sécurité sanitaire plus strict pourrait être mise en place.
I'm glad that the virus situation has improved. I think it would be better if health authorities let exam candidates take a vaccine in advance before the exam. It would be safer for us.
Et retour en Australie où l'ensemble du conseil d'administration de Australia Post va comparaître devant un comité parlementaire. Des sénateurs vont se pencher sur les liens éventuels de ces administrateurs avec le Parti libéral. Il faut signaler que l'ancienne directrice générale d'Australia Post, Christine Holgate, avait déclaré qu'elle a été contrainte illégalement de démissionner après qu'elle en ait appris qu'elle avait donné 4 montres Cartier d'une valeur de 200 000 dollars à des dirigeants qui avaient conclu un accord lucratif. L'enquête du Sénat examine le départ controversé de Madame Holgate et il faut rappeler aussi que lors de sa déposition à l'audience la semaine dernière, Madame Holgate avait déclaré qu'il lui avait été clairement indiqué que le Premier ministre Scott Morrison souhaitait qu'elle se retire. Et un coup d'œil météo à travers le pays, Perth 27 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 17, Hobart 19, Canberra 20, Wollongong 21, Sydney 23, Newcastle 23, Brisbane 25, Cairns 29 et Darwin 32 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité, tension entre les États et le gouvernement fédéral concernant la quarantaine au moment où l'Australie-Occidentale lève le confinement. Le secrétaire australien aux affaires intérieures avertit que l'Australie doit se préparer à un conflit régional. Et en France, hommage hier rendu à l'agent de police assassiné la semaine dernière à Rambouillet.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on commence eh bien avec du football et les résultats de la 34e journée de la Ligue 1. Donc en France, Marseille qui bat Reims sur son terrain sur le score de 3-1. Saint-Etienne qui est battu par Brest 2-1. Le Paris Saint-Germain qui va gagner à Metz sur le score de 3-1. Les autres résultats de dimanche, Nice bat Montpellier 3-1, Lens bat Nîmes 2-1, Rennes bat Dijon 5-1, Strasbourg perd sur son terrain 2-1 face à Nantes, Lorient qui gagne face à Bordeaux sur le score de 4-1, Monaco qui va gagner à Angers sur le score de 1-0, et enfin, c'était le match de cette journée, Lyon-Lille, et bien les Lillois ont été gagnés chez les Lyonnais sur le score de 3-2, d'ailleurs retour sur ce match, ce que veut dire cette victoire pour les Lillois avec Hervé et Galtier de la rédaction des RFI.
C'était assez impressionnant. Ce qui était vraiment impressionnant, j'allais dire, c'est la réaction des joueurs lillois à la fin du match. Parce qu'on a senti, ils avaient gagné quasiment le championnat. C'est, vous savez, ce genre de match où vous vous dites, mais ça y est, il faut absolument qu'on y arrive, parce qu'ils avaient vu le Paris Saint-Germain, évidemment, les dépasser. Et ils ont fait cet ultime effort pour pouvoir gagner un match où ils étaient menés 2-0. Et on a eu ce sentiment incroyable. On l'a vu sur la joie qu'a pu exprimer Galtier, les larmes du côté Paqueta, par exemple, et de l'autre côté, du côté lyonnais. Mais c'est vraiment, d'un côté, une équipe complètement up, puis les autres complètement abattus et à terre, puisque d'un côté on peut pressentir peut-être une victoire finale dans ce championnat, et puis de l'autre c'est la fin des illusions, en tout cas pour le titre.
Voilà, Hervé Galtier pour RFI. Allez, une autre aparté sur le football. Au classement, Lille est en tête, toujours donc avec 73 points, le petit point d'avance face au Paris Saint-Germain. 72 points, Monaco est 3e, 71 points, Lyon 4e, 67 points, et Lens est 5e, 56 points. En bas de classement, Nantes est 18e avec 31 points, Nîmes 19e, 31 points également, et Dijon ferme la marche 20e de ce classement, et donc Lanterne Rouge avec 18 points. Autre mot de football, Bordeaux, qui est à l'heure actuelle 16e et a une saison très difficile, eh bien, les propriétaires américains de Bordeaux veulent jeter l'éponge.
La mairie de Bordeaux sera partie prenante pour le choix du futur repreneur du club du football des Girondins. Considère qu'en 2018, elle a été totalement défaillante. La mairie de Bordeaux n'est pas une chambre d'enregistrement. La mairie de Bordeaux a une vision de ce que doit être un club de foot inséré dans sa ville. Je suis déjà en contact avec deux des repreneurs les plus connus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, je suis en contact depuis plusieurs mois avec Bruno Fievé. On a encore correspondu hier soir. Je suis également en contact avec Pascal Rigaud. Je pense qu'eux-mêmes ont compris qu'effectivement, je n'avais pas été en contact avec M. Dagroza et avec Extreme avant qu'ils rachètent le club, vous vous en doutez. Mais, ou même mon prédécesseur n'avait sans doute pas été. Mais je pense que c'est bien que les repreneurs aussi dressent le constat qu'ils vont devoir travailler avec la mairie de Bordeaux.
Voilà, donc situation donc compliquée pour ce club des Girondins, quelque peu dans la tourmente financière. Allez, on va parler maintenant de cyclisme, et c'était Liège, Bastogne-Liège ce week-end à l'antenne de SBS d'ailleurs, j'espère que vous l'avez suivi. Et la super victoire déjà pour commencer chez les femmes de la néerlandaise Demi Vollering, aidée par sa compatriote et ses coéquipières, la championne du monde Anna van der Breggen. Demi Vollering dans l'émotion à la fin de cette course de la Liège-Bastogne-Liège, on l'écoute.
Really grateful that they did it for me, and it's such an amazing team, so thanks to the whole team. It was really hard on the climbs, and at one moment we were gone with this group, which we finished with, and then first Vos came back, but yeah, it's better to not sprint with her, of course, so I was really happy that it broke again, and Anna did the lead out, I think, the last 10K or something, it was awesome.
Voilà, Demi Vollering. Chez les hommes, victoire sur le fil de Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France de l'année dernière, devant un certain Julien Alaphilippe.
J'étais venu avec l'ambition de faire le meilleur résultat possible. L'équipe a fait un très gros travail une fois de plus. Et le final, j'ai essayé de le gérer au mieux. Ça a vraiment été difficile quand la sélection s'est faite dans la Roche aux Faucons. Et ensuite, tout le monde a bien collaboré jusqu'aux deux derniers kilomètres. Il y avait Tadej qui était malin et il a bien lancé comme il fallait de derrière, donc pas de regret.
Vous étiez plus focalisé sur Valverde dans le sprint ?
Non, pas spécialement. J'étais focalisé sur le fait d'arriver au sprint. J'avais pas forcément ou spécialement envie de partir seul ou de faire un coup de bluff à laisser partir quelqu'un. Voilà, c'était important qu'on arrive groupé et le sprint s'est plutôt bien lancé. J'étais en bonne position, mais Pogacar a pris un peu d'élan de derrière et ça l'a fait pour lui. Donc bravo, c'est une magnifique victoire.
Voilà donc pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Et c'était Princesse Erika et Didier Sustrak dans leur morceau Langue de bois. Et ce morceau vous arrive sur les antennes de la radio SBS dans notre programme en français. C'est le temps de passer maintenant à une autre pause. Et tout de suite après la pause, eh bien, comme tous les mardis, on va vous décrypter l'actualité française des 7 derniers jours. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, Emmanuel Macron, le président de la République, qui laisse entendre que le couvre-feu pourrait être repoussé d'une heure.
On va essayer de décaler car 19h, c'est un peu tôt. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État ce lundi. Quelques mots, pas plus, hein, mais cette phrase d'Emmanuel Macron, elle a été reprise partout et pour cause. Hein, le couvre-feu lié à la situation sanitaire Covid-19, il s'impose aux Français depuis 4 mois maintenant. Ce couvre-feu, au début, pendant l'hiver, il démarrait à 18h jusqu'à 6h du matin. Depuis un mois, il a été repoussé. Il ne démarre qu'à 19h et cette heure de plus, déjà, elle est précieuse pour tout le monde, hein, pour ceux qui travaillent, pour faire ses courses, pour profiter tout simplement d'être dehors et des beaux jours qui arrivent, hein, car en ce moment, en France, la lumière gagne du terrain, c'est le printemps. Et donc, ce matin, Emmanuel Macron, qui visitait une école primaire à Melun, en banlieue parisienne, il a lâché cette petite phrase « On va essayer de décaler, car 19h, c'est un peu tôt ». Il a prononcé ces mots, d'ailleurs, en réponse à une petite fille qui lui a expliqué que c'était, je cite, « un peu énervant, ce couvre-feu ». À 19h. On peut donc s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à ce que le couvre-feu, certes, reste en place, imposé, mais il pourrait être décalé, c'est ce qui se murmure, à partir de 20h. L'heure du bilan, en tout cas, elle approche pour le gouvernement, le bilan du mois de confinement qui a été décrété fin mars. Depuis 3 semaines, toutes les écoles, les établissements scolaires étaient fermés. Là, ce lundi, les écoles primaires ont rouvert. Pour les collèges et les lycées, normalement, ce sera la semaine prochaine. Et en complément de la petite phrase du président, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé qu'Emmanuel Macron allait bientôt s'exprimer. Quand exactement, on ne sait pas, mais on attend avec impatience, précision, le calendrier du mois de mai. Est-ce qu'à partir de lundi prochain, les Français vont de nouveau pouvoir bouger à plus de 10 km ? De chez eux, c'est une interrogation, hein, ce périmètre de 10 km au-delà duquel vous n'avez pas le droit en ce moment de vous déplacer. Quid également de la réouverture des restaurants, des lieux culturels qui sont fermés depuis 6 mois, voire plus. Emmanuel Macron, lors de sa visite à Melun, eh bien, il a rappelé que tout se fera de toute façon par étapes de 15 jours, pas par pas, progressivement. Cela sera possible, bien entendu, si les courbes, les chiffres de contamination du coronavirus baisse, ou pire, si cela ne fait que se stabiliser, comme c'est le cas actuellement. Mais attention, tout cela reste extrêmement fragile. Hein, on parle de stabilisation avec encore, en ce moment, tous les jours, plus de 30 000 nouveaux cas positifs par jour en France de décrétés, et des décès qui se chiffrent au-delà de 300 par jour.
Alors les Français, en tout cas, eh bien, se ruent sur les trains pour réserver leur prochain week-end ou alors leurs excursions.
Oui, vous savez, en France, le mois de mai, c'est le mois des jours fériés. Hein. Vous en avez 4, 1er mai, 8 mai, l'Ascension et le lundi de Pentecôte, le 24 mai. Alors, ce qui est plutôt bien pour limiter en tout cas les déplacements et les risques de contamination au regard de la pandémie, c'est que cette année, les 1er et 8 mai tombent un samedi. Donc, entre guillemets, vous ne gagnez rien, vous perdez ces deux jours fériés. Ce sont des week-ends comme les autres, 1er mai, 8 mai, et cela va prolonger en quelque sorte le confinement qui est actuellement en place. En revanche, avec le jeudi de l'Ascension, l'Éducation nationale a d'ores et déjà accordé le vendredi, le lendemain, aux professeurs et aux élèves. Il n'y aura pas cours. Vous aurez donc là un pont de 4 jours. Et puis le lundi de la Pentecôte, qui vous offre 3 jours d'affilée, alors qu'il est... On ne sait pas si on aura le droit de voyager d'une région à l'autre pour ces deux big week-ends, mais dans la promesse du gouvernement, on en parlait il y a un instant, et du président Emmanuel Macron, d'amorcer un retour à la vie normale pour le mois de mai, malgré les chiffres de la pandémie toujours inquiétants, on voit mal le président de la République priver les Français de ces deux ponts, Ascension, Pentecôte, après les mois et mois de restrictions. Et conséquence, eh bien oui, le site de la SNCF est en surchauffe totale en ce début de semaine sur les destinations du nord vers le sud, hein, de Paris vers Lyon, Aix, Marseille, ou bien quand vous voulez aller en Bretagne, sur la côte atlantique, Bordeaux, Toulouse, le Pays Basque, eh bien vous ne trouvez quasiment plus de billets pour ces deux ponts du mois de mai. Les trains, les TGV sont déjà complets. Le PDG de la SNCF, néanmoins, la SNCF Voyageurs, il a voulu rassurer tout le monde. De nouveaux trains vont être programmés, visiblement, et la SNCF, nous dit-on, fait tout pour que les Français puissent, lors de ce mois de mai, voyager.
Allez, pour terminer, le malaise suscité par une tribune tenue par des militaires dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.
Oui, l'armée française, qui d'ordinaire ne sort pas du rang, ne s'exprime pas, on ne prend pas position, politiquement parlant, quand on est militaire. Eh bien, là, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont publié un texte dans Valeurs Actuelles adressé au président de la République, au gouvernement et aux parlementaires. La France est en péril, peut-on lire dans cette tribune. Plusieurs dangers mortels la menacent. Alors, quels dangers? Eh bien, on retrouve dans ce texte de militaires qui, pour l'essentiel, sont à la retraite, hein, les thèmes habituellement véhiculés par l'extrême droite. Ils dénoncent l'islamisme qui, à leurs yeux, gangrène la société française, les hordes de banlieue, écrivent-ils. Ils se disent, ces militaires, excédés par le louvoiement et les silences coupables, visant là donc les gouvernants, les élus. Et ils vont plus loin, sans parler de coup d'État militaire. Ils menacent d'intervenir, hein, si rien n'est entrepris. Alors, ce texte, forcément, il fait beaucoup de bruit. Nous le disions, l'armée, d'ordinaire, ne prend pas position de la sorte, et c'est assez dérangeant. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a fermement rappelé, en tout cas ce dimanche. Hein, elle a mis du temps à réagir, mais finalement elle a condamné cette tribune et souligné, je cite, eh bien, que les armées ne sont pas là pour faire campagne, mais pour défendre la France. Hein, on sent bien que le gouvernement est un petit peu embarrassé par cette tribune de militaires. Florence Parly, qui fait allusion à ces militaires qui font campagne, oui, la campagne présidentielle 2022 dans un an, et leur tribune, en effet, elle n'a pas tardé à être relayée par Marine Le Pen, leader du Rassemblement National, le parti d'extrême droite, comme citoyenne et comme femme politique, a commenté Marine Le Pen. Je souscris à vos analyses et partage votre affliction.
Merci Émile d'avoir décrypté pour nous l'actu en France cette semaine.
Merci, à bientôt, bonne semaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Je me jette à ton cou, c'est mon île d'intention.
C'était « Je me jette à ton cou » par Gaëtan Roussel sur les antennes de la radio SBS à 13h40 et 22 secondes. Temps de passer à une autre pause et juste après la pause, on a une conversation avec Rafa qui va nous parler de sa ligne, de son label, un label d'accessoires pour femmes d'inspiration française et aborigène.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
J'ai le plaisir d'accueillir sur les antennes de la SBS Raphaël, créatrice de Imané, une marque d'accessoires faits main, accessoires de mode pour femmes et accessoires maison basés à Melbourne. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Rafa.
Merci Bertrand, merci de m'accueillir.
Je viens de découvrir votre marque avec des objets qui sont très très bien faits, des matériaux que j'ai rarement vus en fait sur des objets faits main et surtout ils ont un motif aborigène. Ça change de ce que l'on a l'habitude de voir ici à Melbourne.
Oui, exactement. Alors il y a donc plusieurs tissus en fait dans les accessoires que vous avez devant vous. Donc là par exemple c'est une trousse et en fait il y a effectivement un tissu avec un motif aborigène. Donc, je travaille avec une entreprise qui est en relation directe avec les artistes et qui les rémunère pour leur travail. Donc là, par exemple, c'est le design d'une artiste qui s'appelle Audrey Napananga. Donc, il y a à la fois le tissu aborigène et puis ensuite, j'ai décidé d'utiliser des lins enduits qui s'associe très bien avec les couleurs, parce que ce qui est particulièrement beau dans ces tissus aux motifs aborigènes, c'est à la fois l'histoire que ça raconte, mais aussi la finesse des dessins et surtout la subtilité des couleurs. Et moi, les couleurs, c'est vraiment une passion, une part importante de mon travail de créatrice. Et donc, l'idée, c'était de trouver des tissus qui, à la fois, étaient très résistants, qui pouvaient aussi contrebalancer la finesse, puisque c'est un tissu, le tissu aborigène est un tissu en coton assez fin. Et donc, j'ai associé ça avec du lin enduit que j'obtiens de France directement, de ma maman, en fait, qui est spécialisée dans ce tissu. Et c'est vraiment un lin naturel à la base, sur lequel est appliquée des différentes couches de résine, en fait, d'enduit. Et ça le rend imperméable et extrêmement résistant.
Justement, c'était ma prochaine question et vous m'avez devancé parce que le lin enduit, ça, au toucher, on a l'impression qu'on touche du plastique, que c'est une matière artificielle, disons industrielle, quelque chose de pas cher du tout. Mais là,
Alors justement, on est bien bien loin du plastique et on est vraiment sur la fibre naturelle du lin où est appliquée des couches de résine en fait. Et ça crée, c'est pas complètement imperméable comme un plastique, c'est plutôt déperlant. Et c'est vrai que ça peut s'utiliser beaucoup en nappe. Puisque du coup ça s'entretient très facilement et en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que là c'est parce que vous ne pouvez toucher que l'endroit du tissu mais en fait l'envers c'est le tissu de base, normal, le lin normal
comme celui de nos chemises.
Exactement, et en fait ce qui est assez chouette aussi comme vous pouvez le voir c'est que l'effet est mat, donc il n'y a pas cet effet plastique brillant. En fait, voilà, on n'est pas du tout sur ce qu'on appelle, enfin peut-être que certains de nos auditeurs ou auditrices connaissent la toile cirée. c'est pas la même chose en fait. Là, c'est vraiment du tissu et ensuite est appliqué différentes couches de résine et, qui créent l'effet enduit.
En tout cas, le contraste des couleurs est vraiment très fin et très agréable à la vue et même au toucher.
Merci.
Est-ce que vous choisissez les tissus en fonction du lin que vous avez reçu ou bien c'est l'inverse, vous recevez le tissu et puis vous commandez le lin pour pouvoir marier les deux couleurs, agencer vos...
Alors, c'est une bonne question. Alors là, je suis partie des tissus aborigènes parce que c'est vraiment ces tissus qui ont toute la finesse et la subtilité des couleurs. Et en fait, là, je vous ai ramené que quelques exemples, mais en fait, je les décline, je m'amuse finalement à utiliser différentes couleurs dans le motif pour associer avec les lins enduits. Donc ça, c'est vraiment un travail que je trouve très amusant. Et c'est vraiment une grande partie de mon travail de créatrice qui me plaît beaucoup, en fait, l'association des couleurs et la subtilité des couleurs. Et c'est ce que je trouve assez exceptionnel dans ces motifs aborigènes. Et donc, j'ai pu vraiment m'amuser avec les autres tissus pour les marier. Donc,
c'est des objets qui sont faits main. Et quand on voit quelque chose qui est fait main, normalement... on s'imagine que le prix va être astronomique, quoi.
Alors, oui, bah, c'est très intéressant la question du prix parce que c'est d'abord pas toujours facile de décider d'un prix pour un objet fait main, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur chaque objet. Après, moi, l'idée, c'était aussi de rester accessible. Oui, c'est sûr, ce sera plus cher qu'une trousse industrielle fabriquée à l'étranger. Mais en même temps, ça reste tout à fait abordable. Par exemple, j'ai des petits porte-monnaies, comme vous êtes en train de porter, qui sont autour de 25$. Et ensuite, plutôt 45 pour les trousses et 95 pour les sacs. Voilà. Mais il y a à chaque fois pas mal de travail de finition. En fait, pour moi, c'est assez important. Par exemple, c'est bête, mais la petite poche à l'intérieur de la trousse, elle a le rappel du tissu extérieur.
Oui, c'est ce que je suis en train d'admirer.
Et ça ne me paraît pas, mais ça m'oblige à couper deux petits morceaux de tissu en plus, de les coudre. Et donc, ça rajoute forcément à peu près un quart d'heure de travail à la confection. Mais c'est... Je trouve ça vraiment important d'aller jusque dans les finitions et d'avoir cette attention pour chaque détail.
Justement, de l'extérieur, on ne voit que le motif aborigène, mais dès qu'on tire, comment on appelle ça encore en français ?
La fermeture éclair,
j'allais dire le zipper. À l'intérieur, on voit tout de suite le tissu en lin.
Enduit, oui.
En lin enduit, voilà, j'arrive à le dire maintenant. Et non, ça fait un très très bon contraste aussi, parce que là, et puis en plus, comme c'est imperméable, comme vous l'avez dit, ce sera résistant à la salissure, je suppose.
Oui, c'est ça exactement. Bah, ces petits porte-monnaies, par exemple, on me les a achetés comme porte-monnaie, mais aussi ça peut être pour garder son rouge à lèvres, pour les bijoux. J'ai une cliente justement qui me l'a acheté pour quand elle va au yoga. C'est sa petite pochette dans laquelle elle met ses bijoux pendant son cours de yoga. Et voilà. Donc chacun trouve aussi son utilité. Moi, je suis une immense fan de trousses. J'en ai beaucoup, 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 parce que je me les fabrique ou que ma maman me les fabrique. Mais oui, je trouve qu'il y a toujours une utilité et c'est quand même... c'est un objet très sympa qu'on garde pour soi ou qu'on peut utiliser aussi pour sortir. Moi, j'utilise beaucoup ça en petit sac pour sortir, en fait.
Et vous avez dit que c'est votre maman qui vous a inspiré, mais justement, venons-en à Imané. Le nom Imané, il vient d'où? Et comment ça se fait que vous travaillez beaucoup avec votre maman? C'est elle qui fait tout? Expliquez-nous un peu connexion.
Alors, la connexion avec ma maman, c'est que d'abord, c'est elle qui m'a en fait transmis sa passion pour la couture, pour les tissus, les couleurs, la broderie. Donc j'ai vraiment baigné dans cet univers du loisir créatif grâce à elle. Elle-même, après une carrière d'avocate et 4 enfants, elle s'est reconvertie et elle a lancé son entreprise de tissus, de kits de couture, de création, avec beaucoup d'accessoires faits main. Donc j'ai tout appris avec elle. C'est une autodidacte et moi aussi d'ailleurs. Et voilà, elle m'a tout transmis. Et au départ, en fait, Imané était sous le nom Histoire de filles, puisque c'est l'entreprise de ma maman. J'importais ses produits que je revendais. Et puis, il y a à peu près un an, j'ai eu envie de créer ma propre marque et de lancer mes propres créations. Et donc, j'ai créé Imané. Et en fait, Imané, ça vient à la fois... D'abord, j'aime beaucoup ce prénom. Je trouve que c'est un prénom très délicat. C'est un prénom arabe qui signifie la foi. Et puis aussi, dans Imané, il y a le mot mané, qui est la main en latin. Et en fait, chez Imané, tout est fait main. Toutes les créations sont faites main et c'est, pour moi, c'est vraiment important. J'ai vraiment, avec Imané, l'envie de célébrer l'artisanat féminin. Donc, c'était important pour moi que ça puisse transparaître aussi dans le nom.
En préparant cette conversation, je vous avais dit que j'aurais été très contrarié si vous n'aviez pas travaillé de concert avec les communautés aborigènes, parce que vous utilisez des motifs aborigènes. Eh bien, parlez-nous de votre collaboration avec les aborigènes, les femmes aborigènes.
Déjà, j'ai toujours été touchée par la culture aborigène, oui. Et j'ai pas toujours su comment l'approcher. Et comme les tissus, c'est quand même plus mon langage, par là, j'ai découvert vraiment un grand spectre de la culture aborigène et toutes les histoires qui se transmettent par l'art aborigène, dont je n'avais pas spécialement connaissance, en fait. Et donc, en fait, je travaille avec un fournisseur de tissus qui est en relation directe avec les artistes. Ils sont vraiment spécialisés que dans l'art aborigène. Et donc, ils ont une relation très, très proche. J'ai cinq tissus différents pour cette collection de trois artistes femmes aborigènes. Donc, c'est Donna Abbott, Audrey Napananga et Bernadine Wallace. Et en fait, chaque tissu raconte une histoire et raconte une part de leur histoire. Et c'est ça que je trouve vraiment touchant et vraiment particulier. C'est que, en fait, ce n'est pas juste une trousse, c'est l'histoire d'une culture, c'est l'histoire d'une femme, de sa culture, de son pays. Et puis c'est aussi l'histoire de rencontres de cultures, parce qu'il y a du lin français, il y a de l'arabe origène, il y a une Française qui vit en Australie qui le fabrique. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait que les femmes, ensemble, créent des beaux objets et de la beauté dans le monde.
En tout cas, c'est très fin. Moi, j'adore. Si vous aviez une ligne pour homme, ce lin, en tout cas, c'est un matériau que je me verrais utiliser vraiment très, très, très régulièrement, dans la mesure où je suis confiant qu'il serait difficile à salir. Quoi,
parce que, exactement.
La plupart du temps, même avec les téléphones qu'on a, ou je ne sais pas, moi, on peut utiliser des tas de ce genre de matériaux pour des tas d'applications, mais résistant surtout à la salissure, ça, c'est quelque chose qui...
Tout à fait.
Dont la demande doit être vraiment énorme, mais c'est un marché à explorer, quoi.
Ah oui, je suis... il y a des projets d'explorer l'enduit sous d'autres formes, et notamment en trousse de toilette à venir. Donc, d'étendre la gamme.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Et on reste dans le domaine du business où des entreprises touchées par les inondations doivent maintenant puiser dans leurs propres économies pour reconstruire dans des villes dévastées le long de la côte est de l'Australie. Bien, les données publiées par le Bureau de météorologie cette semaine démontrent que la Nouvelle-Galles du Sud a connu des pluies records au mois de mars dernier. Et on signale qu'après avoir perdu leurs revenus, certains propriétaires et exploitants des petites entreprises font face à un avenir incertain. Ce reportage nous a été proposé par Jennifer Schreier de la salle de rédaction de la SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Naomi et Koichi Sato n'ont pas fini de nettoyer les débris de leur restaurant de Port Macquarie qui a été totalement détruit lors des inondations du mois de mars dernier.
We lose almost everything. Fridge, freezer, table, chair, cabinet, dishes, almost everything, food, everything.
Rice cooker, we lost. Sushi case, display case as well.
Et sans une cuisine en état, ils ne peuvent toujours pas servir de repas et ils ignorent s'ils sont éligibles pour une subvention de $50,000 destinée à aider à la relance des petites entreprises.
We already spending about more than 30,000. Yeah. So we lost more.
Selon Dean Naramore du bureau de météorologie, les précipitations dans et autour de Port Macquarie ont battu des nouveaux records pour la ville.
Rainfall averaged across the New South Wales coast, and that was the wettest week on record for 120 years since records began way back in 1900. So an incredibly wet week for many communities.
Dans ce petit cabinet comptable de Port Macquarie, les classeurs étaient submergés sous 5 mètres d'eau. Le comptable Mike Nadler doit encore aérer certains de ses dossiers en papier.
It caused a lot more damage than we anticipated. So you could never prepare for what was coming.
Les petites entreprises peuvent bénéficier de subventions allant jusqu'à $50,000 pour pouvoir relancer leurs activités après le désastre. Mais comme beaucoup d'autres gérants d'entreprises, Michael utilise jusqu'à présent ses propres fonds pour se remettre en marche.
I don't have flood insurance. You can be talking stupid amounts. And okay, I'm a do-it-yourself person a bit, so a lot of the work that's been necessary here I've done myself, but if I was paying others to do it all, I would be out of pocket probably $50,000.
Beaucoup d'entreprises doivent attendre des longs mois pour obtenir des subventions et des aides. Mais les commerçants comme Marilyn Green de Gourmand Ingredients expliquent que c'est grâce au soutien de la communauté locale qu'ils ont pu rouvrir leurs portes.
Oh, it's very humbling. For us, it's extraordinarily humbling. And sometimes it floors me.
Les eaux de crue ont reculé, mais la facture des dommages continue d'augmenter. Selon Insurance Council of Australia, 40 000 déclarations de sinistres ont déjà été enregistrées pour un montant s'élevant à l'heure actuelle à $600 millions. Bien que beaucoup d'entrepreneurs sont tentés de mettre la clé sous le paillasson, la plupart estiment qu'ils ont encore une bonne raison de continuer.
The blood and life of a town is a small business. This is, if you don't support the small business, there is no job for the young people to stay.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Et voilà, ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie, bon après-midi et à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Francis Cabrel dans son morceau « Peuple des fontaines ».
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.